Alors, avant d'aller plus loin, je vais demander à David de lire le texte de ce soir qui se trouve en Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 9. Alors, j'aimerais que vous suiviez de près et que vous gardiez votre droit dans le passage après l'avoir lu.
Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 9. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit « Je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos ». Il dit cela, quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, « Aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. » Amen.
Un passage bien obscur. Quand on entend le mot « amour », on aime, c'est un mot qui nous dit beaucoup. Hein. Le message sur la paix, sur la joie, on aime tout ça. Ce sont des mots qui ont une certaine écho dans notre cœur. Mais quand on dit le repos, c'est, oui, bien sûr, c'est gentil tout ça, mais on n'y pense pas autant que l'amour, la paix, la joie. Et pourtant, c'est très important. Hein. Et on y pense bien, surtout vendredi, parce que le lendemain, c'est le repos. Hein. On peut enlever ses chaussures, on peut se mettre en fauteuil, on peut se reposer, on y pense à cela. Ou, n'est-ce pas, pour beaucoup, quand il s'agit d'aller plus loin, ils aiment aussi avoir une chaise longue sur une plage quelque part. Mais on découvre que, bon, c'est fatigant de rien faire après un certain temps. Hein. Quand on ne fait que tourner des pouces, on aimerait faire quelque chose. Et on découvre dans la vie que le repos n'est pas forcément de rien faire. C'est de faire quelque chose d'autre. C'est un changement. N'est-ce pas? Donc, il y a des gens, le jour de repos, ils grimpent une montagne. Alors, si vous voyez que c'est du tout repos, hein, il faut le faire. C'est terriblement fatigant, mais oh, ils se reposent. Ils se reposent en grimpant une montagne. D'autres, ils aiment, quand ils sont au bureau toute la semaine, ils aiment jardiner. Moi, je déteste ça. J'ai fait ça pour ma vie. Alors là, pour moi, c'est du travail. C'est pas du repos. Alors là. Mais pour beaucoup, c'est le repos de faire un jardin, de voir, n'est-ce pas, et bichonne là, et voilà, ils aiment ça. Ce soir, j'aimerais parler du repos pour l'homme. L'homme tout entier. Vous savez qu'en 1 Thessaloniciens chapitre 5, et Paul parle de l'homme en disant que tout votre esprit, âme et corps soient gardés irrépréhensibles pour le jour du Seigneur. Donc, on découvre là qu'une personne est trois. Ce n'est pas une trinité, il n'y a que Dieu qui est une trinité, mais c'est une triunité, c'est-à-dire on est un seul, mais composé de trois parties différentes, l'esprit, âme et le corps. L'esprit et l'âme sont très, très attachés à tel point que la Bible dit que la parole peut même séparer l'esprit et l'âme. Mais C'est pas facile. Mais ce soir, on va regarder parce que pour avoir du repos, il faut que tous les trois aient un repos. Alors, toutes les parties de notre être. Et nous allons commencer par le corps. Et là, je vous invite à regarder en Apocalypse chapitre 14, verset 13. Apocalypse 14, 13. Alors, si je peux le trouver là. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. J'aime beaucoup la dernière partie, car leurs œuvres les suivent. Dieu n'oubliera pas nos œuvres pour lui. Ils vont nous suivre dans l'éternité. Mais il dit que maintenant, nous pouvons nous reposer de nos travaux. C'est fini, tout le travail ici sur terre. Le corps, ça c'est le repos éternel quand on sera avec le Seigneur. Notre corps ne se reposera pas avant d'aller au ciel. C'est là où on se reposera vraiment. Et là, on va découvrir que le vrai la vraie difficulté avec nous, ce n'est pas le fait d'être fatigué dans le travail, parce qu'on travaille trop. Ce qui nous fatigue le plus, ce sont des soucis. C'est, par exemple, si on a un enfant qui est malade, il faut veiller là-dessus, c'est ça. Ça, c'est fatigant. On sait que, voilà, la semaine prochaine, on sera en chômage. Et là, on ne dort pas, on pense qu'est-ce qui va se passer. Ou est-ce que je vais perdre ma maison ou mon appartement. Des soucis de se lever et de savoir qu'on a un mauvais jour devant soi, ça se fatigue. C'est ça qui nous fatigue beaucoup plus que le travail. Mais vous savez qu'au ciel, il n'y aura pas un mauvais jour. Tous les jours, on se lève. On ne se lève même pas, on ne va pas au lit. On est toujours heureux. Jamais un mauvais jour, jamais des soucis. Jamais quelque chose qui arrive. Ça, c'est du repos. Hein. Ce n'est pas le fait qu'on ne va rien faire. Je crois qu'on va... On va être très occupé. Quelqu'un a dit, mais je ne sais pas ce qu'on va faire là-bas, jouer à l'harpe toute la journée pendant l'éternité. Non, on ne va pas jouer à la harpe pendant toute l'éternité. Croyez-moi, on sera très, très, très occupé, mais joyeux. Vous savez que même ici, quelquefois, on se met dans un coin là, on aime la communion fraternelle, on aime être ensemble, parler, causer, tout ça. Alors là, au ciel, on ne sera pas quatre ou cinq. On sera plusieurs millions de personnes. Même de faire connaissance avec chacun, ça va prendre quelque temps quand même. Même si on ne passe que 100 ans avec chacun. Imaginez le temps qu'il va falloir pour faire le tour. Et puis, comme quelqu'un a dit, je veux passer les premiers 1000 ans simplement assis devant le Seigneur et le garder. 1000 ans, et après cela, je vais rencontrer les autres. Oh, on va avoir des choses à faire. Ne vous en faites pas. Je ne vais pas vous dire ce que je pense personnellement. Mais je crois qu'on aura de très grandes responsabilités. C'est qu'on ne souffre pas autant ici, simplement pour jouer à la harpe. c'est que Dieu nous réserve un ministère extraordinaire, et je ne vais pas vous le dire ce soir. Un jour, peut-être, je vous le dirai. Ce n'est pas mon message ce soir. Mais vous savez, ça, c'est le repos. Ça, c'est le vrai repos final. Âme, esprit et corps, surtout le corps, qui va se reposer pendant l'éternité. Là, vous avez compris, ce n'est pas trop difficile à comprendre. Mais maintenant, on va prendre l'esprit. Ça, c'est un peu plus compliqué. Le repos de l'esprit. L'esprit, avant qu'on soit sauvé, l'esprit est mort. On est né avec un esprit qui est mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on est coupé du Seigneur dès la naissance. J'ai remarqué l'autre jour, en pensant à ce verset, « Entrez par la porte étroite, car large est la porte, spacieux le chemin qui mène à la perdition. » Jésus nous dit « Entrez par la porte étroite ». Pourquoi n'a-t-il pas dit « N'entrez pas par la grande porte ». Il n'y a aucun avertissement de ne pas entrer par la grande porte. Pourquoi? Parce qu'on est déjà là. On n'a pas besoin d'entrer. On y est. On est né là sur la grande route qui mène à la perdition. On n'a même pas la vie. On existe, mais on n'a pas la vie. En Éphésiens chapitre 2, verset 1, nous lisons « Vous qui étiez morts dans vos péchés ». Mais ils n'étaient pas morts physiquement. Il leur a écrit une lettre. Ils étaient morts comment? Par l'esprit. Vous savez que le jour où Adam et Ève ont péché, ils sont morts. Dieu a dit, le jour où vous mangerez, vous serez morts. Et beaucoup de gens ont dit, oh, Dieu a menti là, parce que le jour où ils ont mangé, ils n'étaient pas morts. Ils sont morts 900 ans après. Ah non, ils sont morts le jour même. Morts spirituellement. Leur esprit est mort, coupé de Dieu. Vous savez que les gens dehors, quand vous croisez quelqu'un dehors, vous dites, comment se fait-il qu'ils ne comprennent pas les choses de Dieu? Vous expliquez les choses les plus simples, ils ne comprennent pas, parce qu'ils sont coupés de Dieu. Leur esprit est mort, complètement mort. Et s'ils continuent sur ce chemin-là, ils finiront en enfer. Ça va de soi. Ils sont sur la grande route. Ils n'ont pas besoin d'entrer, ils y sont. Dès la naissance, oh bien sûr, si un bébé ou un petit enfant meurt avant d'atteindre l'âge de raison, il va au ciel quand même. Mais ceux qui savent ce que c'est le péché et qui continuent, ils continuent sur la route jusqu'à la fin, à moins qu'ils changent, entrer par la porte étroite. Donc c'est une action de notre part. Il faut prendre une décision pour entrer par cette porte étroite. Autrement, on y va directement en enfer. Alors, ce passage, qu'est-ce que ça veut dire? Hébreux 4. Regardons maintenant Hébreux 4, parce qu'il est en train d'expliquer ça. Les Juifs, à cette époque-là, étaient en train de clocher entre les deux. Est-ce que je serai un chrétien ou un juif? Est-ce que je resterai dans le judaïsme ou est-ce que j'entre carrément dans le christianisme? Alors, l'écrivain, que je suis persuadé que c'est l'apôtre Paul, mais on m'a dit ne jamais le dire toujours l'écrivain, donc je dis l'écrivain. Mais je suis sûr que c'est l'apôtre Paul. Alors, quand il leur a écrit, il parle des Juifs qui ne sont pas entrés dans le repos de Josué. Qu'est-ce que ça veut dire, le repos de Josué? Le repos de Josué, c'est que Dieu leur a promis le pays promis, la terre promise, Canaan. Mais beaucoup ont refusé d'y entrer à cause de leur incrédulité. Et ils sont morts dans le désert à cause de leur incrédulité. Et Paul est en train de leur dire, mais ne le faites pas. Ne faites pas comme eux. Vous savez bien qu'ils ne sont pas entrés dans le pays parce qu'à cause de leur incrédulité, ils sont morts dans le désert. Ne les imitez pas. Entrez tant qu'il est temps, entrez dans le pays promis. Et puis il ajoute, mais Josué ne leur a pas dit le repos, le vrai repos. Parce qu'il a dit, David, des siècles après, a parlé d'un autre repos. Vous avez vu ça dans le passage là. Il a parlé d'un autre repos. Mais quel repos? Mais le repos céleste. Le repos de Christ. Alors, puis il ajoute quelque chose. C'est compliqué ce passage-là. Il dit, il passe d'une chose à l'autre, mais je suis en train de vous l'expliquer. Puis vous prenez le passage à la maison, tête reposée, et vous allez le lire. D'abord, il leur dit, n'imitez pas ceux qui ont manqué d'entrer dans le pays promis avec Josué. Mais, surtout maintenant, ne suivez pas leur exemple d'incrédulité, mais entrez tant qu'il fait jour. Tant que Dieu dit aujourd'hui, c'est le moment d'entrer. Et puis, il parle de ce repos de sabbat, verset 9, le repos de sabbat. Mais qu'est-ce que c'est ce repos de sabbat? Il explique ça, c'est que Dieu a créé, a recréé, a refait la terre dans 6 jours. Les jours de création, là, n'est-ce pas? Les 6 jours, il a fait. Et le 7e jour, qu'a-t-il fait? Il se reposait. Est-ce qu'il était fatigué? Non. Un jour, j'ai dit, il était fatigué. Oh là là, quelqu'un m'a dit, mais qu'est-ce que vous avez dit là? Alors, je me suis rendu compte que j'ai fait une gaffe monumentale. Alors, depuis, je ne le fais plus. Non, il n'était pas fatigué. Il s'est arrêté de son travail parce que son travail était terminé. Toute la création était faite, y compris Adam, il était là, créé aussi, le dernier jour, à la fin du dernier jour d'ailleurs. C'était le soir où il était créé. Et le premier jour que Adam a vécu, c'était le sabbat. Il s'est réveillé et c'était le jour de repos. Il n'avait rien à faire sauf d'entrer dans la journée et de se reposer. On se repose dans le travail fait par un autre. Dieu a tout fait et Adam en a profité. Le travail était fait par Dieu et Adam a jouissé de la création. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est une figure de Christ qui fait tout le travail et qui a dit quoi? Tout est accompli. Et qu'est-ce que nous faisons? Nous arrêtons de travailler nous-mêmes pour mériter le ciel, pour entrer dans un travail achevé déjà par Christ sur la croix. Nous n'avons rien à faire et Paul dit surtout ne manquez pas. Entrez dans ce repos de sabbat, c'est-à-dire dans un repos d'un travail accompli et fini. C'est ça que nous devons faire. Ça, c'est l'esprit. Et quand on entre, quand on accepte le travail terminé par Christ pour notre salut, parce qu'il a tout payé, il ne nous reste rien à faire, sauf de se reposer là-dedans. C'est l'esprit qui se repose. C'est l'esprit qui est régénéré à ce moment. On ne dit pas l'esprit est ressuscité, c'est le corps qui ressuscite, mais l'esprit est régénéré, retrouve la vie. Et Adam a retrouvé la vie après quand Dieu l'a sauvé. Et nous, nous retrouvons la vie une fois que nous cessons d'être incrédules et que nous entrons dans le sabbat du repos de l'esprit. Nous cessons de travailler pour notre salut et nous commençons à travailler parce que nous sommes sauvés. Nous avons des œuvres accomplies. Mais pas pour être sauvés, c'est déjà fait. Et nous sommes vivants et nous allons en avant avec le Seigneur. J'espère que c'est clair. Toujours est-il qu'à la fin de cette réunion, vous pouvez me poser des questions. Normalement, je ne le fais pas, normalement. Pourvu que vos questions sont relatives à mon message. Parce que quelquefois, les gens disent, oui, et qu'est-ce que... Oh là là, ça n'a rien à faire. Il faut que ça a à faire avec le message, mais si c'est relatif au message, vous pouvez poser des questions si c'est quelque chose n'était pas clair. Maintenant, je prends l'âme. On a eu le corps, on a eu l'esprit. Le repos de l'esprit, c'est le salut. C'est quand on entre dans la vie éternelle. Ça, c'est le repos. Parce qu'à ce moment-là, on a la conscience pure. On est en relation de nouveau avec Dieu. On peut parler avec Dieu. On vit pour la première fois. Maintenant, l'âme. Et mon verset pour l'âme est en Romains 8, verset 2. Romains 8, verset 2. Où nous lisons ceci. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Au lieu de mettre le mot repos là, l'apôtre dit affranchi. Mais affranchi, notre âme, affranchi, c'est le repos. Ça, c'est le repos, quand notre âme est affranchie. Qu'est-ce que ça veut dire? Oh, j'ai fermé ma Bible. Si vous voulez, on va regarder l'âme avant qu'elle ne soit affranchie. C'est dans le 7e chapitre. Il vient d'entrer dans le 8e, mais il y avait d'abord le 7e. Alors, si vous voulez regarder Romains, chapitre 7, et là nous voyons au verset 18, vous l'avez trouvé, vous autres? Oui, ce passage-là, ce qui est bon, n'est-ce pas? Et je fais ce que je ne veux pas, et ce n'est pas plus moi qui le fais, c'est le péché. C'est juste avant cela. Dans ma chair, je sais que dans ma chair, j'ai la volonté, mais pas le pouvoir de faire le bien. Car je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Levez votre main. Est-ce que quelqu'un de vous a jamais expérimenté ça? Vous faites ce que vous ne voulez pas faire et vous ne faites pas ce que vous voulez faire. Est-ce que quelqu'un a jamais eu cette expérience? Vous savez quoi? Il y a une guerre en vous. C'est la guerre en soi, c'est la guerre de l'âme. Maintenant, nous sommes dans l'âme. Et il dit, voilà, j'ai trouvé que le péché était plus fort que moi. J'étais sauvé, mais pas délivré. Toujours un jour en haut, et le jour après, en bas. Pendant un temps, la victoire, et pendant un temps, la défaite. Et c'est ça. Vous savez, aussi longtemps que la guerre est en vous, vous ne pouvez pas faire la guerre contre Satan. Ce n'est que lorsque la guerre en nous cesse que nous pouvons commencer vraiment à faire la guerre à Satan. Il a dit, combattez le bon combat de la foi. Mais on ne peut pas combattre le bon combat de la foi si on est en train de se combattre intérieurement. Parce que Satan dit, le péché en nous, laissons Satan de côté pour le moment. Le péché en nous dit, fais-le. Et l'esprit dit, ne le fais pas. Bon, je le fais, je ne le fais pas. Non, ne le fais pas. Oui, si, regarde. Oh là là. Alors, cette guerre entre les deux, si vous n'avez jamais trouvé ça, vous n'êtes pas sauvé. Hein? Si vous n'avez jamais eu cette expérience, vous n'êtes pas sauvé. C'est-à-dire qu'un inconverti n'a pas ça. Parce que c'est un cochon. Quand il tombe dans la boue, ça lui plaît. Plus il y a de la boue, plus il est content. Mais ce n'est pas ainsi avec le chrétien. Parce que c'est une brebis. Hein. Quand il tombe dans la boue, il n'est pas vraiment content. Il se demande pourquoi il est allé au début. Je fais ce que je ne veux pas. Et ce que je veux, je ne le fais pas. Voilà. Et cette guerre intérieure qui se poursuit constamment, excusez-moi, c'est ça qui doit cesser. C'est ça qui doit cesser. Et c'est terrible parce que la chair est forte. Et les décisions prises toutes seules, hein. Oui, bon, à partir de maintenant, c'est terminé, hein. Voilà. Je pense à quelques-uns que j'ai vus moi-même. Un jeune homme qui vient d'accepter le Seigneur, il a dit, voilà, moi, vous voyez ce paquet de cigarettes, c'est terminé. Puis la fois suivante, je le vois, il est dehors, en train de fumer. Oh non, on ne s'arrête pas comme ça, hein. C'est, n'est-ce pas, ce n'est pas un coup de tête, ce n'est pas notre volonté. Le péché est plus fort que nous, quand il a dit ça. Mais quand on arrive à chapitre 8, c'est tout à fait différent. Affranchi, libre, c'est coupé. Est-ce qu'il est parfait? Non, Paul n'a jamais dit qu'il était parfait. Il a dit, au contraire, il a dit, je n'ai pas trouvé la perfection, mais je cours pour l'obtenir. Il voulait être de plus en plus parfait. On n'est pas parfait, mais on est libre. C'est-à-dire, on n'est plus esclave de ce péché qui nous tient tout le temps. Parce que normalement, ce n'est pas 25 péchés qui nous tiennent, c'est un seul. Quelquefois, il y en a deux. Il y a un frère. Mais normalement, c'est un péché qui nous tient, qui nous force de continuer. Et combien on est triste quand on tombe. Seigneur, encore une fois, je suis tombé. Vous revenez au Seigneur. Vous pleurez. Vous dites, Seigneur, maintenant, c'est fini. Alors là. Et pendant un temps, c'est vrai. Parce que vous le faites honnêtement. Vous le faites de tout votre cœur. Je ne veux plus. Je ne veux plus. Et vous le faites. Je ne veux plus. Mais un jour, ça vous prend de nouveau. La tentation est là. Ça frappe quand on l'attend le moins. Quelquefois, on n'est pas du tout en train de penser à ça, et puis tout d'un coup, on regarde quelque chose, on entend quelque chose, oh là là, puis voilà, c'est terminé. Alors, est-ce qu'il n'y a jamais délivrance? Est-ce qu'on ne peut jamais être une fois délivré? Oui, c'est ça. Tout ça, c'est le chapitre 8. Et ce soir, chacun ici est où en chapitre 8? Vivant cette vie nouvelle avec l'Esprit, où vous êtes encore en chapitre 7 en train de lutter avec vous-même. On est en 7 ou en 8. Où en êtes-vous ce soir? J'allais vous demander combien sont en 8. Puis je dis, oh là là, peut-être ils n'oseront pas lever la main. Alors je dis, bon. Si vous voulez lever la main quand même en disant « Oui, moi j'y suis, faites-le. » Oui. Il n'y a pas tellement de mains levées. Je connaissais ça pendant longtemps. J'ai pleuré beaucoup. J'ai voulu être libre. Et je n'étais pas. Je me rappelle le jour où je suis passé en chapitre 8. C'était un dimanche matin. C'était à la fin d'un culte. Et tout d'un coup, le Saint-Esprit m'a dit, « Ah, c'est la dernière fois. Ou tu t'arrêtes, ou tu seras jugé. » Les conséquences seront terribles. Je l'ai entendu. Hein. Pour dire que j'avais peur, hein, j'avais la frousse. Hein. Mais franchement, j'avais la frousse. J'ai tremblé. Je suis entré à la maison. Je ne savais pas où me mettre. Mais une chose est sûre. Ce jour-là, c'était du vrai. Quand j'ai dit, Seigneur, c'est terminé, j'étais lessivé. J'étais pompé. J'étais complètement... N'est-ce pas, vous dites, et la joie vous a inondé. Non, non, non. Ça a été dur ce jour-là. C'était dans les jours après que la joie et tout le reste est venu. Mais oh, ce jour-là, je ne l'oublierai jamais. Hein, quand je suis passé de chapitre 7 au chapitre 8. Parce que dans le chapitre 8, C'est la bénédiction de l'Éternel qui a enrichi, il l'a fait suivre d'aucun chagrin. J'avais entendu ça longtemps avant, j'étais même capable de le citer, mais je ne l'ai jamais expérimenté. Mais ce jour-là, je l'ai expérimenté. Vous savez, c'est merveilleux de ne pas avoir à lutter constamment avec soi-même. Je me réjouis. Oh, je ne suis pas parfait, hein? Je vous ai dit, je ne suis pas parfait. Mais je ne suis plus esclave. Je vis cette vie d'esprit. Je prie dans l'esprit. Je marche avec Dieu. C'est merveilleux, hein? C'est formidable. Si toute l'Église ici était en chapitre 8, moi je vous dis, on aurait le réveil. Hein? Quelque chose de grand se passerait ici. Emmanuel en prêche. Il prêche le même message que je viens de prêcher. Pas une fois, je l'ai entendu plusieurs fois. Moi, je l'ai prêché, mais ce soir, je fais plus que de prêcher. Je vais vous mettre le défi, hein. Ou vous allez gaspiller le restant de votre vie, ou vous allez dire, voilà, c'est fini, et vous n'avez pas besoin de me le dire, hein, c'est pas ça. De s'avancer, c'est pas ça non plus. C'est de prendre la décision une fois pour toutes, parce que il faut que le jugement commence à la maison de Dieu, et quelle sera la fin de ceux qui ne croient pas. Le jugement commence avec nous. Je l'ai compris ce jour-là. Le jugement était sur moi. C'était moins de 2 heures. Je savais où je céderais une fois pour toutes, où j'aurais des conséquences terribles. Il me l'a fait comprendre. Hein? Oh là là, j'avais la frousse, hein, toute la journée. Hein? Mais je suis content que ça m'est arrivé quand même, parce que tout change depuis. Hein? Oh, je suis joyeux tout le temps. Hein? C'est merveilleux de connaître le Seigneur de cette façon-là. Chapitre 8, le chapitre de l'Esprit qui nous affranchit, qui nous libère, qui nous permet de faire des choses pour le Seigneur, de prier comme jamais, d'attendre de Dieu des choses, d'être vaillant dans la prière. Oh, maintenant, je peux continuer à dire virtuellement les mêmes choses. Mais je vais m'arrêter. S'il y a quelqu'un ici qui n'est pas sauvé, je suis à votre disposition. Mais maintenant, je vais vous permettre de poser des questions, si vous voulez. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une question avant qu'on chante « Quel repos céleste ?»